Nous serons les pionniers des grandes transhumances. Tous les prolos en charter le vendredi soir. Retour le lundi matin quai de Javel ou au Creusot avec des souvenirs de pêcheurs de requins.
Ou de pêcheurs de perles.
Sans vouloir vous contrarier, la perle se pêche plutôt aux îles de la Sonde.
Mais nous irons.
CO2, mon amour.
Vous avez raison, nous irons partout, à Zanzibar.
Au Galapagos.
Ici, dans la baie d'Along. Ah, le cri des cormorants le soir, sur les joncs. Croix, croix, croix.
Sans vouloir vous contrarier, ça c'est plutôt le cri du perroquet bleu du Mato Grosso. Le cri du cormoran, c'est...
Croix, 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 croix.
Denis Chessot, sur France Inter.
Ah ben oui, on vous l'avait dit, c'est une émission qui rapproche les hommes, nous rapprochant de la nature, même avec le cri des jonques le soir... le cri du cormoran, pardon, le soir sur les jonques, on va y arriver.
Le cri des
jonques. Oui, c'est comme ça. CO2 mon amour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, avec aujourd'hui Ludovic Asselot à la technique. Nous avons préparé cette émission avec Camille Blanès et c'est Henri Marc Mutel, oui, toujours lui, qui réalise l'émission. Et qui commence par une petite humeur parce que c'est des soldes. Mais oui, alors ça tombe bien, on vous fait 25%, même 26% de moins. Chiffre scientifique officiel. Sur quoi? Eh bien sur la faune. Sur la faune française qui ne travaille pas assez et qui décline massivement. Il est beau mon vison d'Europe, mon mouflon d'Arménie, mon lynx boréal. Allez, allez, tout doit disparaître sous l'étalement urbain, les milieux qui dégagent, les pulvérisateurs. La pigrièche à ventre rose, la tortue d'Hermann, la grande noctule. Qui, je le rappelle aux accros des séries sur Netflix, donc qui ont peu de temps pour sortir de leurs écrans, c'est une chauve-souris, hein, la grande noctule. Circuler la bécassine des marais, le dahu de Lozère, le globicéphale noir. Alors, ouais, y a peut-être un intrus dans ma liste. Bon. Allez, soldez aussi. Et l'avantage, eh bien, c'est que ces soldes-là ne durent pas 5 semaines, mais toute l'année, oui, en métropole et en outre-mer, où le péril est quand même plus élevé. Là, c'est jusqu'à 40% de réduction sur les espèces qui sont en danger. Je rappelle que la France abrite quand même 10% de la biodiversité de la planète. Et nos oies cendrées, hein? Eh ben, depuis le 8 janvier, le gouvernement a ouvert une consultation publique sur le prolongement d'un mois de chasse supplémentaire, donc cadeau du président aux chasseurs, en contradiction avec les directives européennes. Et faire du baltrap avec nos oies qui illuminent notre ciel français, bah, serait pour soulager nos amis néerlandais, qui, je rappelle, sont des adeptes de la pêche électrique. Ça, c'est pour ravager les poissons et les fonds des mers. Ils l'utilisent pas encore pour les oiseaux, mais on ne sait pas. Non, alors pourquoi? Parce que donc ces oies donc prolifèrent dans le nord de l'Europe. À part que les oies des Pays-Bas sont sédentaires, comme le confirme le Muséum National d'Histoire Naturelle, et aussi un certain nombre de chasseurs de bonne foi. Donc, buter le palmipède en France n'aurait aucune conséquence sur les populations néerlandaises. Nils Holgersson, une fois de plus, n'oublie pas ton gilet pare-balles avant de chevaucher une oie.
Les luttes contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité sont plus nécessaires que jamais, mais se trouvent entravées. Nous surmonterons ensemble les égoïsmes nationaux, les intérêts particuliers et les obscurantismes.
Et pour caresser un peu plus le chasseur, premier défenseur agréé de la nature dans le sens de la prédation et du bulletin de vote, eh bien, on maintient aussi les très rigolotes chasses traditionnelles. Je vous explique, vous avez le choix entre scotcher les oiseaux à la glu, les assommer avec des pierres en évitant malgré tout la lapidation totale qui vous transforme le passereau en purée dégoulinante, ou encore, vous pouvez les étrangler avec des lacets. Alors, le ministre de la Transition écologique et solidaire avec les oiseaux a dû se taper les basses besognes devant le Conseil d'État, qui valide la pratique de la chasse à la glu et aussi des tendelles, donc avec des petits lacets, dans les Ardennes. Et qui pouvait penser que de telles pratiques sorties du fond des âges de famine pouvaient encore perdurer? Cette décision aberrante, elle mérite quand même de nous rappeler qu'il existe au fond des campagnes de notre beau pays des individus, mais aussi des braconniers et des rabolios aux petits pieds, hein, qui occupent leur loisir à enduire de superglu les branches des arbres, y piéger de frémissantes boules de plumes de quelques dizaines de grammes, pour leur apprendre, nous dit-on, à chanter. Eh oui, ces gens-là, ça ose tout, il paraît même que c'est à ça qu'on les reconnaît. Aucun chasseur digne de ce nom, car il y en a quand même plein qui attachent plus d'importance à la préservation de la nature qu'à leur gibecière, n'irait se vanter au comptoir de s'être rendu maître d'un rouge-gorge de 6 grammes ou d'une fauvette des jardins, Pourtant, les boîtes de pâté de grive qui garnissent les étals des traiteurs et dont nous nous gavons les soirs de fête pour éponger le pastaga ne sont pas bourrées de mie de pain ou de graisse de porc. Il y a aussi derrière un marché assez juteux, alors beaucoup moins important, je vous l'accorde, que celui du cannabis, et qui dit marché, dit vendeur à la sauvette, voire circuit clandestin bien organisé, face aux épouvantables lois répressives européennes exterminatrices de liberté. Que nos traditions séculaires se complaisent dans les gabegies ortolanes les plus sordides, dans l'indifférence complice des élus locaux, soit, mais que les institutions nationales les autorisent indirectement, officieusement, ça donne bien la mesure de l'aveuglement de nos sociétés face au déclin inexorable de la biodiversité. Donc encore une éblouissante victoire du progrès des consciences. Merle, Griffe, Pinson, Chardonneret, Verdier, la liste est longue, et doivent donc tout subir, de la destruction des milieux aux pesticides, de la disparition des insectes au changement climatique jusqu'aux lois imbéciles de l'égoïsme humain. Alors je ne sais pas si nos élites locales ou nationales sucent le croupion grassouillé des bruants à l'abri honteux des serviettes de table à carreaux du sud-ouest, mais irons-nous jusqu'au dernier moineau ? Bon, alors les oiseaux qui nous écoutaient à table, on va continuer à vous donner de la graisse dans nos jardins pour passer l'hiver, ce sera déjà ça de gagné. Et Alain Bougrain-Dubourg d'ailleurs a aussi poussé un coup de gueule dans ce sens dans Le Monde de ce week-end. Alors, je vous l'ai dit, un petit tour de table merveilleux avec plein de sujets sur la table. Bonjour Jadine Garde.
Bonjour.
Mediapart, évidemment, que vous représentez. De quoi va-t-on parler ?
Nous allons parler de Notre-Dame-des-Landes, de ZAD, du devenir des terres agricoles de la ZAD et j'espère, si on a le temps, ensuite de Guyane.
Hervé Kempf, de reporter, pardonnez-moi, Mediapart, c'était déjà, donc de reporter, Hervé Kempf. J'ai fait une petite allusion à la Lozère, c'était pour vous, parce que je sais que
ouais,
vous
êtes... Le Dahut de Lozère, oui. Qui n'existe plus.
Qui n'existe plus.
Je croyais qu'il était dans les Pyrénées, en fait,
mais,
le Dahut.
C'est ça, mais là, en revanche, disons-le, c'est vrai que, parce que vous avez des origines par là-bas, et c'est un coin de biodiversité incroyable. C'est vrai qu'on a eu le vautour fauve, on a eu le cheval de Przewalski qui a été réintroduit, on a eu les bisons, etc. Donc, ça se porte quand même pas mal dans ce territoire. De quoi parlons-nous ?
Eh bien, on va parler des gilets jaunes et de leur rapport avec l'écologie. Puis on va parler du climat, parce que voilà. Ah oui. Et si on a un petit moment aussi, l'artificialisation des sols.
Oui, parce que là, ça continue aussi. Et Frédéric Dandré, artificialisation des sols, ça vous concerne ?
Oui, ça me concerne un peu. Oui.
Cessons de ruiner notre sol, c'est votre dernier ouvrage.
Oui, nous on parlera de dioxyde de titane, on parlera du département du 93 avec ses toits végétalisés, du département du 94, on pourrait parler de l'évolution du statut associatif qui est un peu compliqué, et puis des prairies versus forêts pour lutter contre le climat, mais tout ça si on a le temps, Denis.
Voilà, donc personne n'a rien contre la chanson, non ? Allez, hop, c'est parti.
Something beautiful. Something beautiful. Ooh.
something beautiful.
Choisi par Thierry Dupin, ce William Zedvinin, très très bien ça. Ah, écoutez, ce son premier sujet.
Partir sur Québec Air, Transworld, London, Eastern, Western, Pipan American.
On a déposé une quarantaine de fiches, dont 25 fiches agricoles, avec des projets agricoles, qui ont débuté depuis ces 10 dernières années. On a donné réponse à l'État, en fait, on a une demande de l'État, on a fait un pas en avant vers eux, donc maintenant à eux aussi de faire un pas en avant, c'est-à-dire en laissant cette zone apaisée et qu'on rentre dans un dialogue, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment dialoguer sur le fond du projet et qu'on porte tous ensemble depuis des années.
Alors voilà, donc ce projet, c'était Notre-Dame-des-Landes. Donc on le sait aujourd'hui, le 7 janvier, ça va être le premier anniversaire de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Vous êtes allé aussi plusieurs fois sur place, Jadeline Garde, pour Mediapart.
Très nombreuses fois.
Oui, c'est ce que je ne sais plus combien de fois, mais enfin, vous n'avez pas pris l'avion pour y aller.
J'ai pas essayé.
Ouais. Petite parenthèse quand même, Amazon, pas très loin, donc a essayé aussi de se poser avec des entrepôts. Puis
ils se sont dit que c'était peut-être pas le meilleur endroit pour implanter un entrepôt. Amazon, et donc la sagesse semble avoir fait son œuvre.
C'était pas le meilleur truc. Alors en fait, à qui maintenant vont revenir les terres, donc sauver du béton, et aussi au profit de quel monde?
Ben voilà, parce que c'est vraiment tout l'enjeu aujourd'hui du devenir de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et qui est un enjeu qui a un peu disparu de l'actualité pour plein de mauvaises mais de bonnes raisons aussi. Voilà, il se passe plein de choses, c'est vraiment un moment très 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 fort politiquement, quoi. Mais bon, voilà, il ne reste pas moins que toute cette terre de la ZAD, c'est 1500, 1700 hectares, selon comment on compte, qui ont été sauvés du bétonnage. Eh ben, leur avenir se décide aujourd'hui. Et c'est très important parce que je pense que c'est, quelque part, c'est la nouvelle bataille de Notre-Dame-des-Landes. Mmh. Et quelle est cette bataille? Bah, finalement, elle oppose et elle va opposer, je pense, de plus en plus, les praticiens d'une agriculture, productiviste, industriel, en tout cas utilisant engrais, produits chimiques, etc., à ce qui s'est pratiqué sur la ZAD depuis 10 ans, c'est-à-dire un incroyable laboratoire d'expérimentation humaine, mais aussi de culture, mais aussi de maraîchage, mais aussi de formes d'élevage, et aussi de plein d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la lutte de la ZAD depuis 10 ans, il y a eu tout ce qu'on sait sur la critique de l'État, la création d'espaces de liberté, de créativité en dehors du capitalisme, loin de la police, loin de la justice, etc. Donc toute la dimension libertaire, anarchiste, très créative. Mais il y a eu aussi un énorme travail fourni sur comment vivre avec le bocage. Mmh. Et comment vivre avec cette faune, avec cette flore, comment en vivre en partie. Donc on a vu au bout de quelques années certains de ces zadistes, donc a priori plutôt venant des squats urbains, qui sont devenus de vrais paysans, c'est-à-dire de vrais paysans dans le sens attachés à leur terre, attachés à ces terres, c'est pas les leurs au sens propriétaire,
attachés
mais
à ce pays,
ces terres, à ces baies, donc un troupeau de vaches, des paysans boulangers, de la culture de céréales, de la culture de plantes médicinales, l'apprentissage aussi de la forêt. Il y a un bois sur la ZAD, celles et ceux qui y sont allés le savent, c'est la forêt de Roanne qui avait été le théâtre d'affrontements très très durs avec les gendarmes en 2012 lors de la première tentative d'expulsion. Donc c'est un lieu qui est très important politiquement, sentimentalement, affectivement. Alors, cette forêt aussi, cette forêt aussi, sont devenir aujourd'hui posées, puisque en fait, parmi les gens de la ZAD, un petit groupe s'est formé il y a quelques années, Abracadabois, qui essaye de complètement repenser Abracadabois, qui essaye de repenser aussi comment on vit avec une forêt. Et donc, qu'est-ce qu'on s'autorise à y prélever? Mais qu'est-ce qu'on veut y défendre? Comment est-ce qu'on essaie d'améliorer sa biodiversité? Et comment on devient aussi un habitant d'une forêt? Et donc toute cette effervescence, cette intelligence, cette compréhension, ce savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qui devient?
Alors on a une réponse quand même qui va être entre les mains du département de Loire-Atlantique, parce que sur les 1500-1600 hectares, elle redevient propriétaire de pratiquement 900 hectares. Ouais. Donc ça va être le premier propriétaire. Donc à qui va-t-elle les louer? renouer, parce que il y a eu des bails évidemment précaires, donc ça c'était pendant un an.
Voilà.
Est-ce qu'il va y avoir une pérennisation de bois agricole?
Voilà. Donc en fait, en gros, c'est tout à fait ça la situation aujourd'hui, c'est que le département rachète la moitié de la ZAD, une grosse moitié de la ZAD, bon, sachant que le département quand même historiquement avait été un des plus grands fervents défenseurs de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, donc était très anti-ZAD, mais semble aujourd'hui, ce qui est quand même assez intéressant à noter, être arrivé à des intentions plus accueillantes du projet de la ZAD. Le département a dit, nous on veut rester propriétaire et on va louer, donc ils vont pas revendre comme on pouvait le craindre à un moment. Donc, on va rester propriétaire de l'ensemble et on souhaite les louer avant tout à des projets de nature, agriculture bio, circuits locaux, circuits courts, etc. Donc ça, ce serait très compatible avec les projets de la ZAD. Mais en fait, si vous voulez, une des questions qui est posée aujourd'hui, c'est que les agriculteurs présents sur place bien avant le projet d'aéroport, qui avaient cédé à l'amiable leur terre à Vinci en 2012, donc qui ont été indemnisés pour cette cession, aujourd'hui disent on veut récupérer ces terres. Or, ces personnes-là, ces agriculteurs-là, et ben justement, ce sont des agriculteurs qui pratiquent une agriculture industrielle. Alors après, c'est pas la Beauce, hein, c'est la Loire-Atlantique, c'est des plus petites parcelles, dans l'ensemble, c'est plutôt de l'élevage bovin, etc. Mais quand même, c'est de l'agriculture qui utilise intrants chimiques, pesticides et tout. Et le problème, c'est que si ces personnes et si ces fermes qui étaient présentes sur la ZAD, on va faire simple, depuis quelques années, mais reviennent plus fortement, ce que ça risque de faire, bah déjà, un, c'est morceler la ZAD. Or, la ZAD, en fait, aujourd'hui, elle a des projets assez fous et assez innovants de formes de coopération très poussées, voilà, en solidarité. Donc voilà, il y a besoin d'espace, il y a besoin de gens. Et aussi, les naturalistes en lutte. Donc ces naturalistes qui, depuis des années, ont cartographié la faune et la flore de la ZAD et qui en défendent le caractère exceptionnel, mais exceptionnel parce que protégé justement de tous ces produits chimiques et protégé de trop d'élevage depuis toutes ces années, ils sont très inquiets des effets que pourrait avoir le rapprochement de pratiques agricoles près de cette forêt, près des marais, dans cette zone humide dont la qualité est en fait la pauvreté, mais la pauvreté au sens chimique du terme. Donc là, il y a la question aussi de qu'est-ce que l'État va les autoriser à faire, est-ce qu'ils vont pas avoir aussi un étau se refermer sur eux avec des normes qui leur sont demandées aujourd'hui, qui sont demandées au monde agricole et qui sont très contestées, la question du puçage des bêtes, la question des normes, du bâti, des constructions, enfin toutes ces batailles là.
Ça va être quoi dans les 6 mois qui viennent? Ça va être
Les réponses là, c'est dans les quelques mois, même pas 6 mois. Hein, l'accord entre le département et la préfecture a été signé en décembre. Il doit être opérant tout début 2019. Mm-hmm. Et donc là, c'est une nouvelle vague de discussion qui va commencer entre département et gens de la ZAD. Comment faire pour que les conventions d'occupation précaire deviennent des baux? À quels critères? Et là, l'État, pour l'instant, a dit, nous, il faut que tout le monde soit dans les normes. Et donc ça va être une nouvelle discussion. Quelles normes, jusqu'à quelles normes aller du côté de la ZAD? Quoi accepter pour résister quand même à une normalisation qui est ce contre quoi ils se sont toujours battus?
Eh bien, un grand merci, donc, Jade Lingard, pour ce point.
On peut peut-être dire que la semaine prochaine, du coup, le 17 janvier, il y a un rassemblement sur la ZAD de célébration de l'anniversaire. Et on peut dire aussi qu'il y a un fonds...
Mais c'est le 17, pardon.
Le 17 janvier, c'était le 17 janvier. Et qu'il y a des fonds de dotation. Il y a un fonds de dotation qui est créé par les habitants de la ZAD et qui va faire appel à des financements collaboratifs afin de lever de l'argent pour racheter les parcelles qui vont peut-être être mises en vente.
Alors tout ceci, évidemment, on a aussi ce fond quand même de climat qui se réchauffe, Hervé Kempf, donc de reporter. Et là, on va quitter donc cette ZAD, peut-être aussi pour faire une articulation, on en a beaucoup parlé, mais quand même entre gilets jaunes et articulation avec le climat, on dit très souvent avec Frédéric Denry depuis déjà de très nombreuses années que l'écologie au sens très large, ou alors on va dire l'environnement, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais doit être la première des sciences sociales, on dit ça depuis une quinzaine d'années. Donc, que dire aujourd'hui, Hervé?
Eh bien, d'abord, que reprendre très rapidement l'histoire récente, c'est ce qui a quelque chose de fascinant, c'est que depuis septembre, depuis même fin août, la séquence politique, le débat politique en France, il est parti de questions écologiques. C'est d'abord le 28 ou le 29 août, sur France Inter, la démission de Hulot, qui ébranle très fortement le pouvoir de M. Macron, et surtout M. Hulot disait des choses fortes par rapport au lobby, par rapport à l'absence de politique écologique. Ensuite, le démarrage de l'affaire des Gilets jaunes, enfin l'affaire des Gilets jaunes, c'est autre chose, c'est l'ébranlement, le mouvement, on ne sait pas si on peut parler d'insurrection, mais en tout cas, c'est une émotion populaire comme on n'en a jamais vu en France depuis 50 ans, et ça va changer énormément de choses, et c'est parti là aussi.
Enfin, il y en avait eu avec, malheureusement avec Charlie et d'autres événements qui étaient...
Depuis un tel mouvement, on ne l'a pas vu depuis 1968, ça veut pas dire qu'entre-temps, il n'y a pas eu effectivement des rassemblements, des émotions très fortes, mais émotions populaires au sens de révolte populaire, comme disent les historiens. Mais toujours est-il que le deuxième point après Hulot, c'est que ça part sur la question de la taxe carbone. Donc, à nouveau, une question, comment on fait de l'écologie dans ce pays, dans nos sociétés? Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment important pour les écologistes, c'est la question écologique est maintenant en capacité de devenir au centre du débat politique. Ensuite, ce qui apparaît, au début, on a interprété la question, le refus de la taxe carbone comme un refus d'une solution écologique, sauf qu'on s'est très rapidement rendu compte, parce que disaient les personnes elles-mêmes, les gilets jaunes, qui sont en fait des Françaises et des Français de toute la France, bah écoutez, nous, la taxe carbone, le problème, c'est que on est obligé de se servir de beaucoup de la voiture, parce que, eh bien, il faut faire maintenant de plus en plus des transports, on doit se loger loin, on doit aller au supermarché ou à l'hypermarché qui est loin, on doit aller à la maternité ou à l'hôpital qui maintenant est plus, ou à la poste qui est plus dans le village ou dans le bourg, mais à 50 ou 100 kilomètres, on est obligé de prendre la voiture. Et là, on va y venir peut-être, mais ça renvoie aussi à une question d'aménagement du territoire, une question d'artificialisation des sols. Et puis, il disait aussi, mais comment nous, on paierait la taxe carbone, alors que les riches, appelons-les par leur nom, ce gouvernement a une politique qui favorise, en termes fiscaux, les plus riches. Et donc, on en est venu, quelque part, taxe carbone, mais alors remettez l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc déjà, on voit que dans toute cette discussion générale, on a vraiment des articulations, des liens qui se font entre les questions écologiques et la question de la justice sociale. Et de la démocratie, évidemment. Et puis, je dirais qu'après, on va sur le terrain. C'est ce que font les journalistes de Mediapart, de Reporters et d'autres médias, de France Inter. On va sur le terrain, on discute avec les gens. On s'aperçoit que l'écologie va pas venir au premier dans la première discussion, c'est clair. Mais un, il n'y a pas de refus d'écologie, il n'y a pas de critique de la question écologique. Au contraire, tout le monde dit bah oui, le climat c'est important, la nature. Nous on n'a pas beaucoup entendu parler de choses de nature comme celles que Denis tu as ou Dean par exemple dans l'introduction. Mais la question du climat, la question des transports, la question de la pollution en général revient très souvent. Et souvent pour dire, je vais pas donner d'exemple de reportage, on a été dans beaucoup d'endroits, mais par exemple la taxe sur le fait que les avions, il y ait pas de taxe sur les kérosènes, alors qu'il y en ait beaucoup sur la voiture, ça pose un vrai problème. Et puis voilà. Et puis je dirais une autre chose qui s'est passée cette semaine, on l'a passé un moment vraiment important, c'est que on a dépassé 2 millions de signatures pour l'affaire du siècle, qui est la volonté d'un recours juridique contre l'inaction de l'État français en matière climatique. Et donc là, c'est quand même très important.
Qui n'ira pas au pénal, qui ira devant le tribunal administratif.
Qui ira au tribunal administratif, après on pourrait voir comment ça évoluera avec peut-être un peu de pessimisme, mais moi je vois le bon côté des choses, c'est qu'il y a 2 millions, même si c'est signé sur Internet, c'est malgré tout un geste d'une importance considérable. Et moi je me dis, il y a d'un côté cet ébranlement absolument extraordinaire des Gilets jaunes, quoi qu'on en pense, mais qui est vraiment un ébranlement de la société française dans son ensemble et qui aura, on en parlait un peu avec Jade avant, qui aura des effets durables, historiques sur la société française, sur l'économie, sur la politique. Et puis on a quelque chose de très nouveau quand même, cette signature massive. Moi j'ai envie de dire aux écologistes, et on le dit très amicalement aux lectrices et aux lecteurs de Reporters, et là je suis très heureux de le dire aussi aux auditrices et aux auditeurs de CO2 Main d'Amour, on ne peut pas être signé avec beaucoup d'ardeur, d'enthousiasme, ce recours sur le climat et rester de côté quand il y a un autre mouvement social extrêmement important. Donc il faut qu'on travaille ensemble, on a les briques, j'en ai posé quelques-unes, il faut qu'on travaille ensemble à faire en sorte que ces questions, ce mouvement du gilet jaune, ils viennent aussi sur les questions de climat, ils viennent sur les questions d'essence, ils viennent sur les questions d'environnement, de nature, parce qu'il y a un lien profond, on l'a dit et peut-être qu'on en redira quelques mots, entre la question écologique, la question climatique et la question de la justice sociale.
Frédéric Domé.
Je bois du petit lait, ça fait des années qu'on le dit dans cette émission. Les Gilets jaunes, on l'avait dit dès le début du mouvement, c'est le symbole d'une société qui est arrivée au bout du désaménagement du territoire fondé sur la voiture, fondé sur le prix du marché de l'immobilier qui n'a jamais été contrôlé, fondé aussi sur le fait que le sol est une ressource renouvelable, certes, mais en quantité finie à l'échelle humaine, et du sol, il n'y en a plus. Et voilà où on en est aujourd'hui. Les gilets jaunes, en fait, c'est la partie redevenue visible d'un iceberg qui est celui d'une société qui est arrivée au bout de son système. Et ce système, c'est aller de plus en plus loin parce que tout est de plus en plus cher, et puis advienne que pourra. Sauf que advienne ne peut plus. Juste une petite statistique, quelqu'un qui a le SMIC en France n'a que 32 euros à la fin du mois pour ses activités de loisirs, c'est-à-dire pour aller au cinéma ou pour acheter un livre. Dès lors que j'avais fait le calcul que l'essence augmente, ça fait entre 30 et 40 euros de plus par mois pour un smicard, quand on fait 20 km par jour.
Donc on explose, bien sûr.
Donc on expose et la situation est là.
Musique, allez,
oui,
Juliette Armanet.
Ah oui, il est cool, son chat, Cool Cat. C'était donc Juliette Armanet sur France Inter. Frédéric Denry, donc on a cette ronde si vous arrivez. Par hasard, c'est pas possible, comme ça, à 14h33. Eh ben, vous arrivez dans une ronde de sujets avec Hervé Kempf de Reporter, avec Jade Lingard de Mediapart. Et nous avons Frédéric Denry avec son ouvrage Le Sol, enquête sur un bien en péril. Parlons là aussi quand même d'un additif qui a quand même été un tout petit peu controversé, le E171, donc c'est un colorant, donc c'est sa base de nanoparticules qui est produit, que l'on retrouve dans les produits alimentaires, dans les médicaments, dans les confiseries, etc. Bon, et là il y a une passe d'armes avec Bruno Le Maire, là, qui est tout à fait intéressante et qui quand même s'est
terminer plutôt positivement.
Oui, Bruno Le Maire arguait du fait qu'on ne peut pas extrapoler les études faites sur les rats qui montraient que le dioxyde de titane TiO2E171 était sans doute un initiateur et un promoteur de cellules précancéreuses du cancer colorectal. On ne pouvait pas donc extrapoler à l'homme, moyennant quoi, ben c'était pas la peine de l'interdire. Sauf que il y avait juste une bonne raison de l'interdire, c'est que ça ne sert strictement à rien, comme la plupart des additifs. Vous savez, tous ceux qui sont avec des E, qui ont des noms incompréhensibles, qui correspondent à des produits que vous n'avez jamais vus dans l'armoire de maman ou de grand-maman qui faisait à manger, la plupart de ces additifs sont inutiles et on devrait s'en séparer en tout état de cause. Quand on voit un produit qui a du E171, on ne devrait même plus l'acheter. De toute façon, c'est dans l'air du temps. La Commission européenne, ces produits devraient être interdits. Et dans la loi agriculture et alimentation, les 350...
C'était bien noté, ça.
C'était bien noté. Il y a 352, je crois, 348 additifs alimentaires autorisés. Dans le normal, 50 dans le bio, ben c'est le bio qui va devenir quasiment la norme. On va réduire le nombre d'additifs alimentaires à 50.
Et donc là, les associations aussi ont bien fait leur travail.
Heureusement qu'elles ont été là pour foutre un peu la honte au ministre Le Maire.
C'est pour ça. Soutenez les associations. Comme vous pouvez aussi soutenir Reporters, je tiens à le dire, ils en ont besoin aussi. Mais oui, absolument. Vous avez le site de CO2 Mon Amour. Pour rester dans le domaine associatif, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate quand même au niveau des associations, on va dire en général?
Elles sont confrontées à une crise de croissance qui est assez terrible. C'est-à-dire que les financements pérennes pour les associations n'existent quasiment plus. Les associations sont obligées d'aller chercher des sous comme les bureaux d'études en répondant par exemple à des appels d'offres qui sont de plus en plus nombreux. Ne serait-ce qu'une mairie qui a besoin d'un conseil pour rester dans les clous de la biodiversité pour un aménagement est obligée de faire un appel d'offres, est obligée d'aller chercher du conseil. Les associations ont du mal parce qu'elles ne savent pas le faire, parfois aussi parce qu'elles ne veulent pas le faire, parce que certaines préfèrent être dans le rôle assez facile, entre guillemets, du militant, plutôt que d'avoir à...
Il n'est pas toujours facile.
Non, il n'est pas toujours facile, ouais. Mais intellectuellement, ouais. C'est plus simple que d'aller chercher des sous, de se mettre dans la posture de quelqu'un qui va démarcher, qui va répondre à un appel d'offres. Et dans toutes les associations, il y a vraiment où est-ce qu'on positionne le curseur entre le militantisme et le professionnalisme pour continuer à vivre. C'est un vrai problème qui fait dire à certains juristes que peut-être que le statut loi 1900 est amené à disparaître au profit d'un statut un peu hybride entre l'association de aujourd'hui et l'entreprise, un peu comme sur les fondations qui séparaient dans les fondations le militantisme bénévole des salariés professionnels qui répondraient par exemple à des appels d'offres. C'est l'évolution qu'a subi grâce à Alain Bougrain-Dumour la LPO.
Voilà, donc vous avez aussi Noé Conservation qui le fait, quasiment un bureau d'études, enfin il y en a, voilà. Eh bien tenez, nous allons... Ah si, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens là?
Du cochon.
CO2, mon amour.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon.
Denis Chessou.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson.
C'est bon.
Répétons sur ces airs polissons. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon.
Sur France Inter.
Un écrivain donc en ligne, Christian Laborde. Bonjour Christian.
Bonjour Denis.
Alors, cher Christian Laborde, nous sommes chez vous dans les Hautes-Pyrénées, donc très très beau département. Alors on vous doit évidemment pas mal d'ouvrages. Je rappelle quand même La cause des vaches, hein. Vous aviez parlé de cette première ferme des 1000 vaches dans le Nord. Et alors là, donc autre coup de gueule que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans Marianne. Alors là, vous y allez carrément, c'est un Fleury-Mérogis des cochons à Haussin. Alors Haussin, on n'est pas très loin de Tarbes. On va emprunter une jolie départementale que nous connaissons parce que c'est un coin de vélo que l'on aime bien tous les deux, la 936, on monte, il y a une très jolie côte, on arrive sur le plateau de Gers avec une vue sur les Pyrénées, comme on dit, imprenable. Vous avez des élevages de chevaux qui sont très très bien, et puis, au sommet, que risque-t-il de se passer?
Eh bien, le projet au sommet, c'est d'installer une porcherie de 6000 porcelets qui seront donc engraissés là, sur place. Et c'est-à-dire une porcherie extrêmement cruelle, puisque les porcelets vont arriver là à l'âge de 24 jours. Ils vont être mutilés comme on le fait dans ce type d'élevage, c'est-à-dire mutilés à vif. On va leur meuler les dents à vif, leur couper la queue à vif. On va castrer les petits mâles à vif. Et ils seront gavés de médicaments et ensuite, sans jamais voir la lumière du jour, jusqu'au jour précisément où ils monteront dans la bétaillère qui les amènera à l'abattoir. Mmh. et donc l'abattoir qui est dans les Landes, je crois, dans le département des Landes. Bref, c'est un élevage cruel pour les animaux. Ça, c'est un premier point, et c'est pour cela qu'il faut déjà être contre, au nom des bêtes, au nom des cochons.
Et deuxièmement, il y a les questions environnementales.
Il y a les questions environnementales, parce que là, évidemment, il y a la question du lisier. Le lisier, alors là, j'invite nos auditeurs à bien écouter, le lisier qui est vanté par la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées comme étant un engrais organique. Je rappellerai que dans le lisier, en sus des déjections porcines, il y a évidemment des fongicides, des antibiotiques et des détergents. Les fongicides qu'adorent nos nappes phréatiques et évidemment les détergents dont les oiseaux et les plantes
sont friands.
Bref, il y a une menace écologique évidente. Et enfin, il y a un troisième point qui est le point humain, on va dire, c'est que, bien entendu, l'installation de cette porcherie, d'aujourd'hui 6 000 porcs et demain évidemment 20 000 porcs, aura pour conséquence d'entraîner la disparition des petits éleveurs et singulièrement à 200 à 300 mètres de la prochaine porcherie de l'élevage de porcs noirs de Bigorre,
oui,
qui est une appellation d'origine contrôlée.
Et là, ils sont en liberté, hein.
Ils sont en liberté sur le plateau de Gers, ils sont là, et donc, bien entendu, eux sont menacés aussi. C'est-à-dire que c'est à la fois les bêtes, les paysages, et puis le savoir-faire paysan qui est menacé par ce projet.
Il y a déjà, Christian Laborde, une autre porcherie aussi qui est à côté, qui est déjà aussi
Il y a une autre porcherie sur ce même plateau de Gers qui est à Escoubès. Elle accueillait, entre guillemets, 7000 porcs.
C'est
elle vient
beaucoup.
De passer à 12000 porcs.
Ah, vous m'assurez.
Voilà. Donc, la logique inflationniste, productiviste de ces gens qui fabriquent des porcs comme on fabrique des automobiles, si vous voulez. Voilà ce qui se passait. Alors, ce qu'il faut bien voir, on parlait à l'instant d'association. Il y a une merveilleuse association militante et combattante qui s'est créée à Aussun. Elle s'appelle Nos Porcharanes. Et les gars de Nos Porcharanes, les gars et les filles de Nos Porcharanes se battent pour empêcher la réalisation de ce projet. La décision définitive appartenant à Monsieur le Préfet, qui va donc devoir trancher au mois de mars. Alors cédera-t-il au lobby porcin ou bien prendra-t-il en charge la défense et des animaux et des bêtes et de l'environnement.
Eh bien, merci beaucoup, Christian Laborde, donc, pour ce coup de gueule. On vous a donc bien entendu. On vous retrouve là cette semaine dans Marianne, parce qu'il y avait trois pages, donc, sur ce thème-là. On va pas faire du tout de cher Jade Lingard, de une passerelle avec la Guyane, parce qu'on n'a vraiment pas de rapport. Bon, si ce n'est qu'il y a encore un territoire qui risque d'être un petit peu bousillé avec cette fameuse mine d'or. Donc, où en est-on, donc, de cette question, avec ce collectif, d'ailleurs, qui a un très joli nom, c'est Hors de Question.
Ouais, Hors de Question. Bah oui, j'avais proposé qu'on aborde le sujet de la mine d'or, donc du projet Montagne d'or en Guyane, qui est ce projet d'énorme mine d'or à ciel ouvert. Et Denis, vous me faites un signe.
Oui, parce que vous allez...
Qu'est-ce que je dois faire?
Non, pas du tout. C'est formidable, c'est que vous allez écouter ce petit son de Michel Dubouillet.
Okay.
En France, vous avez des mines aujourd'hui qui ont plus de 100 ans et qui polluent toujours. Et on en est au stade où on se pose la question de comment arriver à dépolluer les sols où sont ces mines. Mais en Guyane, on peut être la poubelle de la France, la poubelle de l'Europe, on s'en fiche royalement.
Voilà, et donc vous pouvez continuer, il n'y a pas, pardonnez-moi.
il a raison, la poubelle de la France. C'est vrai que, on connaît comment historiquement est-ce que l'outre-mer, les colonies en général et l'outre-mer en particulier, ont en effet eu un usage comme ça un peu de dépotoir de nos activités économiques, mais sont aussi des grands oubliés de nos engagements environnementaux, par exemple de protection de la biodiversité. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation qui est quand même très inquiétante, d'avoir un énorme projet de mine d'or à ciel ouvert en Guyane, dans une parcelle de forêt amazonienne. Je rappelle par rapport à la chronique, Denis, que vous faisiez au début d'émission sur la disparition annoncée de nombreuses espèces animales, que la Guyane est le principal réservoir de biodiversité français, enfin à 98% et 97% en flore et sur une grande partie de notre faune. Donc c'est notre trésor national, en fait, la Guyane. Et ce trésor est aujourd'hui menacé donc par ce gigantesque projet de mine d'or qui est porté par un conglomérat de sociétés minières, une société canadienne et une société russe. Mais la raison pour laquelle je trouvais intéressant d'y revenir en particulier aujourd'hui, c'est que là, il y a quelques jours, il y a un comité onusien, alors qui n'est pas forcément le plus connu, le comité pour l'élimination de la discrimination raciale, auquel appartiennent plusieurs pays, mais pas la France, mais il y a les États-Unis, le Brésil, la Colombie, etc. Et donc ce comité a officiellement protesté auprès de la France en raison de ce projet de mine Montagne d'Or, car tel est son nom. Et pourquoi ? C'est ça que je trouve très intéressant et très important comme question, pour non-consultation des populations indiennes, des populations autochtones qui vivent dans la forêt. Et ça, c'est je pense, un des aspects les plus problématiques et désespérants de cette histoire, c'est que le projet de mine d'or, non seulement menace cette parcelle de forêt avec le cyanure qui va être utilisé, la déforestation que cela entraîne, les déchets miniers que ça va entraîner, la circulation des camions, enfin voilà, toutes les pollutions minières qui sont bien connues, mais ça menace aussi, et ça risque de causer des dommages irréversibles, un lieu de vie, des lieux de vie de populations indiennes, et c'est pas simplement leur lieu de vie aujourd'hui, c'est leur lieu de mémoire. C'est-à-dire que c'est toute l'histoire de ces peuples qui est dans la forêt. Parce qu'on est là, on est, enfin, toutes ces hommes et ces femmes qui vivent aujourd'hui dans les petits villages qui sont aux alentours de ce projet de mine, leur histoire, elle passe par la forêt. C'est-à-dire que les arbres, la composition de la forêt, les rivières, les rochers, c'est comme les aborigènes en Australie d'une certaine manière, même si c'est
aussi un vecteur spirituel qu'un vecteur de nourriture.
C'est que la terre est leur histoire. Oui. Et qu'en détruisant ce site, il faut bien comprendre, c'est qu'on détruit encore un peu plus leur histoire.
Alors, on en est où maintenant ? Ça va être la décision.
Et donc, hyper concrètement, donc il y a eu un débat public l'année dernière, justement, qui a été très contesté, et notamment par ces populations autochtones qui n'ont pas donné leur consentement, qui refusent ce projet et qui considèrent qu'elles n'ont pas été entendues par le débat public. Il y a eu toute une contestation de la procédure de débat public, mais n'empêche que voilà, la CNDP, donc la fameuse CNDP de Chantal Jouanneau, dont on parle beaucoup aujourd'hui, la Commission nationale du débat public a rendu un rapport assez critique, si bien que les deux sociétés qui développent Montagne d'Or ont revu leur projet en mettant un petit peu plus, enfin un petit peu moins de pollution dedans. Enfin bon, ça reste quand même un très gros projet d'extraction minière. Et aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire que les élus guyanais défendent le projet de mine en disant
parce que
ça
emploi,
va nous apporter de l'emploi, l'activité économique, de la croissance, enfin les arguments habituels sur les grands projets. Face à ça, on a une contre-expertise de Deloitte qui a été défendue aussi par le WWF, qui disent mais en fait on est fou, bien sûr qu'il faut développer, il faut aider les Guyanais et les Guyanaises, il faut créer des emplois, il faut créer de la richesse, mais pas comme ça, en développant le tourisme vert, l'agriculture, la pêche, etc. Et on en est là aujourd'hui. Et franchement, enfin pour finir là-dessus, on évoquait tout à l'heure la pétition, notre affaire, l'affaire du siècle sur le climat, la pétition, elle attaque l'État parce que l'État n'applique pas ses propres lois. C'est quand même ça la base de la pétition. Et là, ce qu'on voit en Guyane, l'État ne respecte pas ses propres lois. Mmh. On a des lois de protection de la biodiversité, on a des lois de participation du public, l'État ne respecte pas ses propres lois. Et donc là, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que les populations, les peuples autochtones de la forêt, aujourd'hui, ils en sont presque à... ils vont se révolter. Ils vont se révolter. Et donc, on risque de se retrouver à une situation, je sais pas si on peut comparer aux Gilets jaunes, parce que le contexte est différent, mais ça va être être insurrectionnel aussi, du fait de toutes ces cécités et aveuglements de la puissance publique.
Et on achètera donc des livres sur la Guyane qui sont très jolis, peut-être dans les librairies de Europa City qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Alors avec Kempf, alors là aussi problème, je parle d'Europa City, artificialisation des sols. Donc connexe sujet évidemment très très bien aussi Frédéric Danhé, ça aussi ça nous inquiète quoi.
Oui, tout à fait, et par une habile transition, j'ai envie de rappeler que Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, travaillait avant chez Unibail-Rodamco, qui est un gros promoteur immobilier, très discret, invisible, mais qui promeut notamment les grands centres commerciaux, les hyper centres commerciaux à travers la France. Donc voilà Monsieur Benjamin Griveaux, qui d'ailleurs demandait à Madame Jouanneau de démissionner de la Commission nationale de débat public, ignorant manifestement Monsieur Griveaux que la CNDP est une autorité administrative indépendante et qu'en aucun cas le gouvernement n'a à intervenir dans son fonctionnement. Donc voilà une introduction à la question de la démocratie. Je rebondis un exemple, par exemple deux exemples sur le par rapport à ce que vient de dire Jeanne Lingard sur la Guyane où l'État ne respecte pas ses propres règles. Il y a cet exemple hallucinant dans le sud-ouest où il y a un projet de barrage à Caussade. Le tribunal administratif a jugé illégal ce projet de barrage et les travaux continuent avec l'aval du préfet. Qu'est-ce que, quand on voit ça, on peut penser de la démocratie, du respect de l'État, etc. Autre exemple aussi que on a beaucoup parlé, j'en suis sûr, assez haut de mon amour, le grand contournement ouest de Strasbourg, où la bataille continue, hein, il faut pas lâcher, même s'il y a eu énormément de déboisements qui ont déjà été faits, mais la situation est encore réversible et les gens sur place se battent beaucoup. Qu'est-ce qui se passait? Au départ, et toujours une opposition très pacifique, et puis des rapports d'experts, un avis négatif du Conseil national de protection de la nature, un avis négatif de l'autorité environnementale, une enquête publique défavorable, et qu'est-ce qui se passe? On continue à promouvoir ce projet d'autoroute qui est absolument absurde. Alors voilà, on a hélas en environnement beaucoup de cas de ce type qui rendent un peu les gens fous. Juste un petit mot pour finir, on va publier lundi un reportage sur ce qui se passe en Colombie. Vous savez qu'en Colombie, comme dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, il y a beaucoup de projets mines et d'extraction minière. Très souvent, les gens, les communautés se bagarrent contre ça. Et en Colombie, il y a une loi qui permet à des référendums municipaux de se faire. Et dans plusieurs cas, des référendums municipaux se font et la population vote contre le projet de mine et ça pèse. Alors, en ces temps où on parle de référendums d'initiative citoyenne, je me demande si on ne pourrait pas imaginer des référendums d'initiative citoyenne sur des projets locaux, par exemple d'aménagement ou d'infrastructure.
Eh bien écoutez, on va interroger Karine Redinger qui a sûrement la réponse.
Jolie, jeune mariée, lune de miel à peine commencée. Méfiez-vous des voyageurs, voyez. Karine Redinger. Karine Redinger, j'ai reçu votre lettre à fleurs. Vous devez être endormie, rêveuse de choses qui sont loin de moi peut-être. Alors c'est pas bien. Karine Redinger, y a un morceau caché de mon cœur. Qui est resté quelque part sur un bateau vapeur. Vous étiez mariés depuis 2 heures. Vous laissiez Karine, le vent montrer vos jambes en douceur. Et vous m'aviez remarqué parmi les voyageurs. Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer des fleurs. J'ai une femme à Paris et vous un gentil mari. Cessons la scène musicale comédie. Votre lune de miel au fil de l'eau, vous veniez le matin très tôt et vive l'amour en bateau. Endormi, petit mari, sur le Mississippi, vous étiez quand même un peu gonflé de m'apporter mon café. Oh, Karine Redinger, veuillez oublier ce steamer. Cette petite plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit, heureusement pas trop longtemps. Ah, ah. Ne venez pas voir le Sacré-Cœur. Laissez Paris tranquille, vous êtes dangereuse dans cette ville. Un Français, c'est souvent sentimental. Vous laissiez le vent montrer vos jambes en douceur. Et vous m'avez remarqué parmi les voyageurs. Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer des fleurs. 10 jours en bateau fou, souvenir, rendez-vous, c'est fini là. From me to you, from me to you. Karine Redinger, y'a déjà quelqu'un dans mon cœur. Cette petite plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit. Ce sont la scène musicale comédie. Cette musicale, ce sont la scène musicale comédie. Cette musicale, ce sont la scène musicale comédie.
Joke. Bah oui, joke sur France Inter, CO2, mon amour. Alors Frédéric Danhuy, oui, nous avons plein de sujets. Tenez, envoyons les abeilles, c'est formidable, on va envoyer les abeilles, pourquoi? Parce que il y aurait trop de ruches concentrées en ville, je dis bien en ville.
En ville, oui, on a tous mis des ruches pour venir en aide aux abeilles et on s'aperçoit aujourd'hui notamment qu'à Paris, qu'il y a trop de ruches, il y a tellement de ruches que les abeilles qui en sortent pour aller manger sur des ressources florales, qui sont en quantité limitée, finalement portent une concurrence assez assez embêtante, voire désastreuse pour les pollinisateurs sauvages. Et on estime qu'à Paris, il ne devrait pas y avoir plus de 600 ruches, grand maximum. Et donc, on est en train de voir ville par ville pour modéliser le nombre de ruches admissibles en fonction des ressources florales qu'il y a tout autour.
Bon, d'accord. Et alors, sinon, si on regarde la biodiversité dans les villes, on se dit que ça peut être une alliée pour jouer un climatiseur naturel. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas forcément ? Parce que donc, vous avez assisté donc, au conseil départemental du 9-3.
Du 93, voilà, du 9-3, un débat là-dessus, comment faire rentrer la biodiversité dans les nouveaux aménagements de l'Île-de-France, en particulier du département 93. Je vous le fais très très court. Premièrement, on rappelle que les parcs urbains restent l'épine dorsale de la biodiversité en ville. Deuxièmement, que les murs végétalisés ne servent strictement à rien, sinon à craquer de l'énergie pour faire monter de l'eau très haut. C'est difficile à entretenir et ça n'apporte rien en matière de biodiversité. Par contre, les toits végétalisés, une étude scientifique est en train de montrer que dès lors que vous avez un sol végétal de 26 cm au moins d'épaisseur sur un immeuble, pas trop, parce que sinon l'air est trop sec, eh bien vous avez en termes de pollinisateurs, en termes de flore spontanée, voire de micro-mammifères, vous avez à peu près la même chose que sur une prairie naturelle et un parc urbain. Donc ça valide le développement sous certaines conditions, en gros à une hauteur pas supérieure à celle d'un immeuble haussmannien, ça valide le développement des toits végétalisés, Denis.
Mais si on laisse pousser quand même de la vigne, sans parler de tout le
Là, c'est bien, vous laissez pousser de la vigne, là ça ne pompe pas de ressources, vu que les ressources sont dans le sol. Mais les murs végétalisés, oui. Très très bien pour les architectes, en fait c'est un gouffre énergétique, un gouffre à eau et en intrants chimiques, parce que le sol n'est pas suffisamment solide et il faut pulvériser beaucoup, parce que c'est plus susceptible que d'être attaqué par des parasites.
Bon, alors moi je veux des bonnes nouvelles, parce qu'on a quand même des choses un petit peu parfois un petit peu lourdes là, quand même, avec tous les éléments, enfin c'était, voilà, il y avait un petit peu de tout. Je sais pas, une petite nouvelle sympathique, Jeanne Lingard.
Alors une petite nouvelle sympathique, l'Allemagne, notre voisin européen réussit à réduire assez fortement ses émissions de CO2. Donc c'est quand même intéressant parce que l'Allemagne est évidemment, comme tout le monde le sait, une très grande puissance industrielle. Et c'est aussi un pays qui est très régulièrement accusé par les pro-nucléaires d'avoir choisi le tout charbon et donc de saccager le climat et que donc la France serait elle-même libérée de toute obligation de ce fait-là. En fait, pas du tout. Oui, l'Allemagne a encore trop de charbon dans sa production d'électricité, c'est certain. Elle émet plus de CO2 que la France, c'est certain. Mais elle est sur un chemin de réduction vraiment maintenant fort, et depuis il était à plat depuis plusieurs années, et là vraiment ça réduit les émissions de CO2 grâce à la montée des énergies renouvelables. Donc je trouve que c'est un exemple très intéressant à comparer avec la situation française.
Hervé Kempf.
Allez, trois bonnes nouvelles à toute vitesse, parce qu'il faut finir sur l'enthousiasme et la bonne humeur et puis le positif. Alors Hambach, justement, en Allemagne, il y a malgré tout encore un énorme projet de mine à ciel ouvert. Le gouvernement devait évacuer, parce qu'à nouveau il y a plein de zadistes à la mode allemande qui sont réinstallés. On dit qu'il y a 47 cabanes dans la forêt de Hambach. Eh bien, le gouvernement a décidé de ne pas évacuer pour l'instant. Donc, restons alertes, mais pour l'instant, bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, il y avait un projet de culture agro-industrielle d'arbres truffiers du côté d'Alès sur 400 hectares. Ça aurait été un désastre. Pour l'instant, le propriétaire a renoncé à ce projet. Et puis, troisième bonne nouvelle, c'est les soldes de cette semaine. On peut faire autre chose que d'aller acheter plein de vêtements nouveaux. Il y a une nouvelle mode.
Allons bon.
On a même trouvé un mot français. En anglais, ça s'appelle upcycling. En français, c'est le surcyclage. Vous reprenez des vêtements, vous avez des doigts de fée, un peu de talent, un peu de créativité, et vous refaites des vêtements neufs. Et puis tout ça dans un contexte de boom sur la couture. Il y a plein d'ateliers partout qui redémarrent. Voilà, bonne nouvelle.
Frédéric.
Ça va plaire à Hervé. Le conseil général du Val-de-Marne a voté un plan d'action agricole. Il y a 1000 hectares de terres agricoles dans le Val-de-Marne. Il a décidé que d'ici 2029, il y aurait 500 hectares de plus de terres agricoles, à la fois sur des friches, sur des terres agricoles qui ne seraient plus soumises à urbanisation, agriculture urbaine. C'est quand même vachement intéressant parce que ça veut dire que l'agriculture, en certains endroits du département du Val-de-Marne, aurait une valeur supérieure à l'urbanisation.
C'est bien.
Oui, c'est bien.
Voilà, écoutez, je vous remercie donc tous les trois. Donc, les éléments sur le site de CO2 Mon Amour. Merci à Ludovic Asselot. Merci à Camille Blanès, Henri-Marc Mutel qui réalisait cette émission. Anne Gouzon, donc, qui nourrit les sites. Et puis, semaine prochaine, alors, celui-ci, le numéro du répondeur, 01 56 40 40 35. 01 56 40 40 35. Abonnez-vous au podcast de CO2, mais aussi de ceux de France Inter. Vous en avez l'habitude. Vous retrouvez aussi l'édito, tiens. Il il est à part aussi. L'édito, l'actu du Montilou, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter l'essentiel, c'est-à-dire un très très bon week-end. Et puis même s'il y a du gris au nord, essayez de mettre le pif dans la nature. Vous verrez, ça fera du bien à tous.